CNDN est en direct du Festival d'Avignon.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Qui sommes-nous? C'est la question que se posent les artistes que nous recevons aujourd'hui. Qui est donc cet Amakoé de Souza dont Jean-Christophe Folli nous brosse le portrait à l'espace Présence Pasteur à travers trois personnages et une trinité culinaire, salade, tomate, oignon. C'est le titre de son spectacle qui commence entre sardines et nuggets. Qui sommes-nous? En catalan, ça se dit qui sommes? Et cette interrogation, c'est celle de la compagnie Barreau d'Evel. Hier soir, pour la première, ces artistes pluridisciplinaires et multilingues, pleins d'humour et de poésie, ont fait jubiler et communier les spectateurs serrés comme des sardines sur les gradins de la cour du lycée Saint-Joseph. Et vous m'en direz des nouvelles. Allez ! Et c'est en fanfare, la fanfare Barreau d'Evel, que nous commençons cette émission. Bonjour Camille de Courty.
Bonjour.
Bonjour Blaise-Mathéo Trias.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux co-créateurs de cette compagnie. Hein. Vous êtes deux des co-interprètes de ce spectacle que vous avez conçu et mis en scène. Camille de Courty, spectacle intitulé donc « Qui sommes ?» avec un point d'interrogation et qui a transporté et enthousiasmé la cour du lycée Saint-Joseph. Alors « Qui sommes ?» ça veut dire « Qui sommes-nous » en catalan. Pourquoi poser cette question aujourd'hui?
Alors, je pense qu'on s'est lancé dans cette question et puis après, on s'est rendu compte de l'ampleur de la problématique. Je pense qu'on avait besoin de s'y attaquer pour la raison que dans cette société, on est en train un peu de s'hystériser autour des questions identitaires et que on avait besoin quand même de se la reposer plutôt à un endroit de, au lieu de se dire à quoi je dis non, de se dire à quoi je dis oui, comment je peux me raconter dans quelque chose de plus ouvert, c'est-à-dire à quoi je veux participer, qu'est-ce que je veux faire, et non pas comme ça comme si nous étions qu'une seule chose et qu'il faudrait aller à la recherche de cette chose pure que chacun peut être. On a envie de s'éloigner de cette question de la pureté de l'identité. Et ensuite, forcément, on a mis du catalan parce qu'on est dans plein de langues, on est dans des besoins de voyager.
Oui, c'est vrai que la sonorité de qui sommes nous plaisait bien. Oui. Ça, c'est le premier volet d'un triptyque, c'est qui sommes, qui soc et on somme.
Alors, qui soc, ça veut dire
qui je suis, pour le coup.
Voilà, donc ça veut dire qu'avant de poser la question du jeu, il vous fallait poser la question du nous.
Exactement.
Voilà, c'était beaucoup aussi se poser à l'endroit du commun, du collectif, comment en fait on allait fabriquer ce groupe. On a 12 personnes qui arrivent d'horizons très différents, qui parlent plein de langues. Il y a 7 langues qui sont parlées dans ce groupe, avec des niveaux de travail sur le corps très 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 haut, très important. Donc on a tous en commun cet engagement dans le corps. Et on avait besoin, cette création, elle s'est posée un peu après le Covid sur comment on retourne à la création, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui donne du sens à nos vies, comment la poésie, elle peut aussi créer des actes qui structurent nos vies, qui nous donnent à penser et qui viennent même réveiller, faire vibrer des choses en nous, en fait, et qui acceptent le fait que nous sommes plein de choses à la fois.
Alors, quand le public entre dans la cour du lycée Saint-Joseph, il voit sur scène une sorte de colline ou de montagne sombre ou peut-être un monstre endormi, on ne sait pas trop, mais on comprend tout de suite qu'il y a là quelque chose de menaçant. Mais c'est en riant que l'on commence pourtant le spectacle avec, si vous me passez le jeu de mots, un tour de poterie, hein, car l'argile, la céramique sont au cœur du spectacle grâce au savoir-faire du céramiste Sébastien de Grotte. Il y a donc matière à rire, matière à façonner les objets, les corps, les visages. Pourquoi introduire l'argile et la céramique dans cette création?
Moi, c'est une matière qui m'attirait depuis fort longtemps. C'est vrai qu'il y a des artistes, on peut dire méditerranéens, qui ont travaillé cette matière-là de façon magistrale. On a passé longtemps à se dire qu'on ne pouvait pas y toucher parce que ça avait déjà été fait. Et au bout d'un moment, pendant le confinement, justement, Camille m'a tout simplement mis dedans un peu en propulsant avec la rencontre avec Sébastien de Grotte. là, moi, je m'y suis mis. Et puis nous, tout ce qu'on touche, on essaye de le mettre dans nos spectacles de façon assez simple, finalement. On essaye de voir ce qui joue, ce qui ne joue pas. Et c'est vrai que ces questions de voilà, se voiler les yeux à travers de la terre pour parler du fait qu'on est assez aveugle sur la situation, d'essayer de faire des trous, d'essayer de se reconstruire, de se refaire.
Gilles, c'était aussi à l'endroit de la transformation. C'est-à-dire, c'est quand même une matière qui a un cycle infini, c'est-à-dire une fois sèche, on peut la recasser, reconcasser, on la refait. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui incarne cette obsession qu'on a aussi sur l'idée de la transformation, que nous sommes des êtres de transformation. Le monde n'est pas fini, le monde est toujours à faire et nos corps ne sont pas finis. Nos trajectoires de vie sont toujours à refaire et à repenser.
C'est vrai qu'il y a toujours plein de réponses à pourquoi on fait quelque chose. C'est vrai que quand il y en a 4-5 qui viennent, comme était le cas là pour
là
s'aligner, bah, du coup on fonce. Voilà.
Cet extrait sonore nous transporte dans le premier grand instant collectif de ce spectacle Qui sommes, qui sera, à n'en pas douter, un des grands succès de ce 78e Festival d'Avignon. On ne va pas en dire plus, hein, laissons la surprise aux spectateurs et spectatrices, mais outre le talent lyrique de la chanteuse qui s'appelle
Camille de Courty,
vous et vos 11 comparses démontrez que même au début d'un spectacle, vous maîtrisez parfaitement tout l'art de la chute. Alors vous vous êtes rencontrés au Centre National des Arts du Cirque, tous les deux. Vous avez entre autres tâté de l'art du clown. Le clown, c'est un médiateur indispensable pour faire collectif.
Oui, pour faire monde. C'est vraiment quelque chose qui nous a construit. Bon, le père de Blaye est clown. Moi, j'ai découvert le clown à l'école de cirque. Mais c'est vrai que c'est une manière d'être au monde, d'être dans l'instant. Nous, on l'utilise beaucoup pour être dans le présent. Et puis aussi, on aime beaucoup cette idée que, en fait, on se fait traverser dans le moment. On doit s'en remettre au public. On doit s'en remettre à lui.
C'est un médiateur. Aussi.
C'est un médiateur. Et aussi, qui dit oui. Le clown, il dit oui et il juge pas.
Alors vous êtes passé du plateau au chapiteau, mais est-ce que les valeurs et le mode de fonctionnement circassien continuent de guider et d'irriguer Barodevel?
Oui, je pense qu'il y a cette notion de troupe, cette notion de pousser un peu les limites des frontières. Nous, on voyage maintenant avec dans qui sommes, nous avons Ricardo qui est notre cuisinier. Donc c'est vrai que cette notion de troupe, de vivre ensemble en même temps qu'on fait le spectacle, qui est très important pour nous, et aussi du bon vivre. C'est vrai que quand on finit les tournées, le soir, c'est impossible d'aller manger quelque part. Donc le fait de créer autour du spectacle et de la compagnie des temps de vie, quoi. On travaille, mais on vit ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est dans les racines du cirque. Quoi.
Et c'est comme ça qu'on instille un esprit de troupe.
Oui, ça c'est très important pour nous, dans le sens où c'est un geste de vie, en fait, de se dédier à créer des pièces, mais aussi à des aventures humaines dans lesquelles les gens s'engagent, en fait. Et c'est aussi une manière d'inventer, de pousser un peu d'autres fonctionnements liés au collectif et au groupe, c'est-à-dire, là, la caravane est derrière la cour pour faire à manger, mais il y a aussi, tout le monde est multitâche, il y a des tâches ingrates qu'on essaye de partager, il y a l'idée aussi que on pense les choses plus comme un cercle, comme quelque chose qui doit circuler entre nous, et non pas comme un cloisonnement des spécialités. Les gens qui participent à la création sont tous très performants, très exigeants dans leur discipline, mais en même temps, ils ont aussi de quoi accueillir la différence, la réalité de l'autre. Et en fait, on travaille beaucoup cet endroit-là, c'est-à-dire qu'une administratrice qui sait faire des affiches en sérigraphiant, un des acrobates incroyables de la scène conduit aussi le semi-remorque. Voilà, on a toujours cet endroit où les gens sont capables d'accueillir d'autres réalités.
Oui, alors il y a des clowns, des chanteurs, des acrobates, des contorsionnistes, des danseurs, des musiciens, des comédiens. On va s'arrêter là parce que sinon c'est les mêmes. Ils sont tous pluridisciplinaires. Quoi. Oui, ça aussi, ça fait partie de l'ADN de la compagnie. Quand il y a quelqu'un qui rentre, il a toutes ces spécialités-là ou bien c'est au fur et à mesure qu'il construit son CV, si j'ose dire.
On les travaille pendant la création, mais après, voilà, ces choses-là, c'est des pratiques que tu prends des années et des années à les faire et à les construire. Donc c'est des gens qui ont des aptitudes et que des fois dans la création, on arrive à pousser. C'est vrai qu'on pratique beaucoup ensemble. Beaucoup de choses différentes pendant beaucoup de temps de la création. C'est pour ça que nous, on fait des créations longues. On ne met pas un texte qu'on met en scène, c'est-à-dire on construit, on travaille, on malaxe les matières et de là, on commence à construire le spectacle. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne savaient pas faire des choses qu'ils font sur scène et puis d'autres qui ont travaillé beaucoup de choses que finalement on peut faire. Finalement, ce n'est pas ça vraiment qui est important de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. C'est qu'est-ce qu'on met en travail, qu'est-ce qu'on met en route pour avancer et puis après. Le spectacle décide finalement à notre place.
Et des idées, il y en a vraiment à l'appel, hein. Comme dit d'ailleurs un des artistes sur le plateau.
Il y a toujours un truc.
Voilà, un truc et plein de trucs, hein, car on ne s'ennuie pas une seule seconde. On se demande toujours en permanence comment vous allez nous surprendre. Est-ce que vous vous surprenez encore d'une représentation à une autre quand vous êtes sur le plateau ?
On fait des écritures qui le permettent, c'est-à-dire il faut qu'on a cherché ça. C'est-à-dire
donc tout n'est pas millimétré, il y a une part d'improvisation devant le public.
C'est les deux à la fois. D'un côté, il y a une horlogerie très claire, aussi du fait de l'exigence d'être doux sur un plateau, hein, c'est tout un sens rythmique à avoir en commun. Et en même temps, il y a aussi des espaces qui peuvent se faire complètement traverser par le moment.
Là ici à la Cour Saint-Joseph avec le vent et c'est avec
Le vent, c'est une donnée importante à Avignon. Hein.
Donc on est vraiment au temps réel, c'est-à-dire le régisseur, le spectacle change en fonction du vent qu'il y a le soir. Donc oui, on est à l'affût, mais en même temps nous on cherche ça, c'est-à-dire ça met tout le monde
en danger.
Pas en danger, non, mais plutôt
en
connecté,
alerte.
En alerte.
Aux aguets. Adore remonter sur scène en étant aux aguets.
Et les idées, au moment où vous créez petit à petit, à force de répétition, le spectacle, les idées, elles naissent directement au plateau ? C'est par la pratique, directement, ou il y a une réflexion préalable ?
En fait, pardon, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de travail quand même, de penser des choses, mais
notamment
mais derrière,
avec Barbara Mété-Chastanier, qui est notre
dramaturge, avec lesquels on explore un peu toutes nos envies. Mais par contre, derrière, on se méfie beaucoup des idées. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée, ah oui, tiens, on a pensé à ça, donc c'est sûr, ça va marcher, au contraire.
On en a beaucoup.
On en a plein.
Il ne faut pas être dogmatique, c'est ça.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, on attend qu'une chose, c'est que ce qu'on va faire, la manière dont on va bricoler cette idée, va venir nous surprendre et nous emmener bien plus loin que ce qu'on avait imaginé.
Il ne faut pas cacher qu'on rate beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mauvaises idées, qu'on essaye, et que le fait de les refaire et de les remettre à l'envers, les confronter à d'autres langages et tout ça, du coup, finalement, on devient quelque chose. Mais
donc ça, c'est tout le travail de ne pas juger ce processus-là, de ne pas se désespérer quand les choses, pendant longtemps, ne ressemblent à rien. Et finalement, laisser émerger quelque chose par le travail, par le fait de rester têtu, de piquer, de taper sur le même clou et attendre que ça vienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on pratique depuis des années, qui n'est jamais simple et qui n'est pas simple d'emmener un groupe là-dedans. Et ils ont été très courageux et ils ont gardé beaucoup de joie dans ce travail.
Alors, on a l'impression que tout naît des corps, de leur engagement dans, dans l'espace. C'est vrai que depuis la première qui s'est déroulée hier soir, des images sont restées fixées comme ça dans ma rétine, des images arrêtées ou mouvantes d'ailleurs. Il y a vraiment les deux. On a parfois un peu l'impression de visiter une galerie de tableaux, et puis il y a de la musique, il y a du chant, il y a du cirque, on en a parlé. En fait, c'est un spectacle total, quoi. C'est une sorte d'opéra, ça, vous qui avez fait du lyrique, Camille de Courty. C'est un peu ça, votre idée?
Ouais, je pense qu'on se pose plus la question. On a vraiment besoin de convoquer tout ce qui est nécessaire pour venir faire vibrer les choses. Et donc, la croisée des langages, pour nous, maintenant, elle est un geste un peu nécessaire, c'est vrai.
C'est vrai qu'on aime le côté que ça soit exceptionnel ou extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a envie et on a l'impression que c'est tout le sens de notre métier. C'est-à-dire qu'avec la situation en plus, à quoi ça sert? Il faut à générer du possible, à générer du oui, à générer de l'avant, de se retrouver à faire une sorte de communion avec des gens que tu sors et tu sens que tu as vivré ensemble. C'est sûr.
On a besoin de créer des moments exceptionnels. Donc c'est vrai qu'on convoque tout ce que l'on peut convoquer.
Alors il y a un comédien pas tout à fait comme les autres et qui introduit peut-être un élément d'exception. C'est un comédien à poil court qui sait battre la queue par terre comme personne, qui fait parfois un petit tour et puis s'en va pour le plus grand plaisir du public, parfois un petit peu plus. C'est un Jack Russell, si je ne me trompe pas.
Elle est croisée Jack et
voilà, quel
et
est son nom.
C'est quand même une bâtarde. Hein, il faut la...
C'est une bâtarde. voilà. Quel est son nom?
C'est Mouchette.
Mouchette, voilà. Elle n'est pas créditée hein, sur le programme.
Oui, parce que je n'étais pas sûre qu'elle soit
là. Elle est arrivée très tard.
Oui.
Parce que c'était une petite chienne qu'on a adoptée il n'y a pas longtemps.
Et pourquoi avez-vous voulu l'intégrer comme ça au spectacle?
Oh, parce qu'on est toujours un peu là-dedans, à faire la place aussi aux autres vivants. Et puis comme notre fille, hein, Rita, il y a une enfant,
oui.
Et il y a ce chien qui vient parler pour tous ceux qui ne sont pas là, en fait.
Voilà, alors Rita, à la fin du spectacle, on la voit marcher sur un océan, mais là aussi, l'océan, il n'est pas tout à fait comme les autres. On entend le bruit de la mer, on entend le bruit des vagues, mais ce n'est pas en fait le bruit des vagues, ce bruit qui lui ressemble tant, il est généré en fait par une marée d'objets. Alors on ne va pas dire quels sont les objets en question, on va laisser la surprise au spectateur, d'autant que c'est un des derniers tableaux du spectacle. Il est annoncé par d'autres moments hein, dans le spectacle, avec une dimension dramatique, parce que c'est ce qui figure une menace assez terrible pour l'avenir. C'est visuellement très fort. Ça reste vraiment dans la tête très longtemps hein, après le spectacle. Et c'est un moment accompagné par des mots.
C'est pas une histoire de tout bien faire. Ça dépend, tu sais. Faut déjà essayer de les faire, les choses. Ça vient d'ailleurs. Alors tu vois,
là, il n'y a personne qui sait vraiment où ça va et d'où ça vient d'ailleurs. Alors évidemment, suivant le contexte, on peut interpréter de façon extrêmement différente cette phrase-là. Et évidemment, le spectacle résonne en ce moment à Avignon avec d'autant plus de force en raison du contexte politique en France. Mais globalement, il n'y a pas réellement d'histoire, il n'y a pas de récit linéaire, mais ce n'est pas grave en fait. On est dans une sorte de description de la situation, dans une sorte de rêve éveillé, dans une sorte de cérémonie aussi. En plus, la nature est très présente. Hein. Les éléments aussi, en particulier une scène d'orage grondant extrêmement impressionnante. C'est une forme de cérémonie, une cérémonie d'exorcisme ou une cérémonie de communion?
C'est les deux. Et nos vies ne sont pas des histoires linéaires. Donc, nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans une histoire qui doit se tenir absolument, puisque, en fait, il n'y a pas de conclusion d'histoire, il n'y a pas de conclusion de nos vies, il n'y a pas de conclusion du monde. Donc, le monde est à faire, nos vies, elles sont à faire. Oui, c'est vrai que je suis émue, parce que c'est vrai que forcément, ça renvoie au contexte actuel. Va falloir forcément... je dis une chose aussi dans le spectacle, c'est foutu ou pas foutu, si on se pose la question que comme ça, on aura le courage de rien. En fait, il va falloir avoir le courage de penser le monde autrement que par le oui ou par le non. Par le fait qu'il y a des pessimistes, des optimistes, ça se passe ailleurs, et puis l'urgence est telle que là, il va falloir faire simple, quoi.
Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser de façon binaire.
Oui, et puis de se vouloir se simplifier les choses, à se dire que tout s'arrangerait, il suffirait d'eux. Ça ne suffira jamais. Ça sera toujours à faire. Il n'y aura rien qui viendra calmer. Il n'y aura rien qui viendra complètement résoudre le fait qu'on ne reviendra pas à un monde d'avant où tout allait bien, où il faisait la température qu'il faut et on pourrait consommer tranquille, peinard, sans rien se demander. Donc à un moment donné, voilà, il faut avoir le courage de regarder en face ce qu'on a créé et essayer d'éviter que le monstre et que cette pulsion de mort qui est en train de monter en ce moment dans le pays prenne le pouvoir.
On a besoin de dire nous aujourd'hui.
D'être fier de le dire. Ouais.
Bah oui, puis d'accepter la différence dans tout cela. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut tout le monde pour faire un monde. Et le monde, c'est celui-là. Donc, le changer à force de oui, pas le changer à force de non. Le changer en acceptant la diversité, en acceptant la différence. Mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait des privilégiés et des pas privilégiés. On a tous les mêmes droits, a priori. Cette peur nous Oui, le désastre là a créé la peur, mais il faut
le regarder en face avec courage.
On peut quand même chanter ensemble, on peut vivre ensemble, on peut trinquer ensemble, on peut
et
vivre.
Et puis faire société, c'est faire la place, justement, s'inventer des endroits où justement on se donne du courage pour pas tomber dans la panique, pour pas réveiller les pires instincts. Au contraire, penser une société autour de qu'est-ce que c'est que prendre soin, qu'accueillir, qu'accepter la complexité de nos vies, le paradoxe que l'on est tous. On est des paradoxes ambiants.
C'est ce qu'on dit aussi beaucoup. Si on essaye juste d'ouvrir un peu les yeux et de regarder qu'est-ce qu'il y a, quand on ouvre un peu les yeux, qu'on essaye d'ouvrir, et bien il y a les autres.
Voilà. Et les autres, c'est une manière de tenir debout.
Merci. Merci beaucoup à tous les deux, Camille Decourty et Blaise Mathéo Trias. Qui sommes, le spectacle de la compagnie Barreau des Velles, c'est jusqu'au 14 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph, relâche les 7 et 11 juillet. Spectacle à découvrir en tournée ensuite et aussi à la télévision sur Arte ce samedi 6 juillet à 22h25.
En su trenza que tanto la tiene apretada. Los días pasan y se repiten. La duda pasan si te repinto. Los días pasan, mira tu pinta. Tómate pelo, no estoy para eso.
Que yo te digo que te quiero. Que yo te digo que te quiero.
Alpelo, Eda Diaz, RFI Talent franco-colombienne dans VMDN sur RFI, un titre qui figure en bonne place dans notre playlist de ce mois de juillet. Bonjour Jean-Christophe Folli.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, vous présenter votre spectacle Salade, Tomate, Oignon, portrait d'Amakoé de Souza ici à Avignon. C'est à Présence Pasteur à 20h15 jusqu'au 20 juillet, sauf les mardis. Alors vous êtes l'auteur, le metteur en scène, l'unique interprète de ce texte publié aux éditions Lire des Marges. Vous entrez en scène en costume noir, chemise blanche, gants blancs, chapeau melon, très élégant. On se dit pourtant qu'on va parler cuisine, eu égard au titre du spectacle. On est venu pour Salade, Tomate, Oignon, et vous commencez par nous parler de sardines.
Au bout de je ne sais pas combien de nuits seules, éduquées au parfum de l'horreur, sorties apatrides de tous les terroirs, sans illusion, sans regret, sans remords, le désir en roue libre et la peur calée dans mes deux angles morts. Avant ce soir-ci, là, j'ai passé beaucoup de... Au bout de je ne sais plus combien de nuits, donc. Seul, donc. Le parfum de l'horreur, donc, que je respirais à plein poumon. Au bout de toutes ces nuits incomptables, seul. Les naseaux au bord de la rupture, le plafond photographié dans toute ma tête, le silence à la veine digérée. Sans illusion et sans remords, donc, n'attendant plus rien. Il me restait pourtant les sardines, de ces petites sardines, la grande comme une phalange, et l'on sent quand on les croque avec les molaires, l'on sent leur petit corps, leur petit squelette céder sous l'ivoire. J'aurais pu les faire frire, ces satanées sardines. J'aurais pu, avec de la farine blanche et du citron jaune, les faire revenir dans une poêle d'huile d'olive, les rendre rousses, les rendre brunes, du sel, du poivre, le tour eût été joué. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait jamais. Non, si on le savait, ça équivaudrait à inspirer consciemment, à expirer consciemment. Alors autant ne rien savoir. Je ne savais pas pourquoi et je ne sais toujours pas. Parce que, au jour d'aujourd'hui, des sardines frites, j'en salive, mais hier, c'est hier, dans le passé. Il y a des choses dont on se lasse parce qu'on les a trop eues et l'on en veut d'autres, alors on s'aventure et c'est ce que j'ai fait. Pourtant, il faisait froid, hein, mais rien à faire. Il a fallu que je mette le nez dehors ce soir-ci.
Et dès le début, hein, Jean-Christophe Folli, on s'en rend très bien compte dans cet extrait, on a l'impression d'une écriture quasi chirurgicale, accentuée d'ailleurs par votre phrasé. On sent que chaque mot, chaque expression imagée, il y en a énormément dans votre texte, vous les avez pesées au trébuchet. Aucune n'est là par hasard.
Non, oui, effectivement. Alors après, en fait, au départ, c'était un récit que j'avais écrit. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a le récit et la pièce de théâtre. Et c'est vrai qu'on a commencé avec Emmanuel Ramu, avec qui j'ai travaillé sur le spectacle, par dire le récit au plateau. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment écrit. Mais enfin, c'est un peu, j'ai l'image de l'huile essentielle, quoi. Vraiment, où on a retiré le plus de mots possible. Et puis voilà. Donc il reste que ça. Donc c'est vrai que chaque mot est un peu important, quoi.
Ouais. Et pourtant, chaque expression, en fait, c'est vraiment des figures de style extrêmement signifiantes. C'est dommage que le bac de français soit terminé en France, parce que c'est un bon moyen de réviser l'ensemble des figures de style, hein, que ce texte, Jean-Christophe Folli, c'est une langue extrêmement imagée, colorée, épicée, pour rester dans la métaphore culinaire que vous déployez sur scène. Alors, le texte est majeur, il dit beaucoup, mais en fait, il dit pas tout. On a presque l'impression que le sous-texte est peut-être plus bavard encore que le texte.
Ouais. Oh, bah, merci beaucoup. Ouais, ça me touche beaucoup que vous disiez ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours essayé de parler de choses, mais c'est que la surface, quoi. Enfin, j'ai renoncé depuis un moment. Ça fait depuis pas mal de temps que j'écris. J'ai renoncé à dire les choses. Vraiment, il y a toujours un truc souterrain, un truc en dessous.
Voilà, c'est-à-dire que vous demandez aux spectateurs de faire le reste du chemin?
Oui. Alors, disons peut-être que je m'adresse un peu à ce qu'il y a dans les gens. Enfin, de la même manière, ouais, voilà, moi, ce qu'il y a en moi, j'espère qu'on va communiquer par nos souterrains avec les spectateurs.
Et vous communiquez avec les mots, évidemment, vous communiquez aussi beaucoup avec votre corps. Vous avez un visage extrêmement expressif, avec des yeux qui en disent aussi très long, les replis de bouche, les silences sont extrêmement parlants dans votre spectacle, Jean-Christophe Folli. Mais alors, ça sent le vécu aussi. Qui est donc cet Amakoé de Souza dont vous nous brossez le portrait, pour reprendre le sous-titre de la pièce?
En fait, au départ, les portraits, c'est venu de la Comédie de Caen qui avait produit le spectacle avec Élise Vigier, Martial Di Fonzobo. Ils faisaient des portraits de gens connus. Donc, ils ont fait, je sais pas, Nina Simone, je sais pas, Coltès et Foucault, et tout ça. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, on va faire des portraits d'anonymes. Et ils ont voulu inscrire Salatomatognon dans cette idée de portrait. Et donc, Amakoué de Souza, c'est... donc, Amakoué, c'est mon deuxième prénom, mon prénom togolais. Et de Souza, c'est le nom de ma mère. Voilà, la famille de Souza. D'ailleurs, je passe un petit bonjour à mon oncle qui s'appelle Ovidio de Souza et qui travaille à RFI.
Ah bah on le connaît très bien, Ovidio. Salut, voilà, Ovidio, si ça se trouve, il est en train de vous écouter. Même très certainement.
Bah ouais, on espère.
Puis vous voyez, le monde est petit.
Ouais,
hein.
Ouais. Bah ouais, je passe un bonjour à Ovidio, puis à ma mère aussi qui m'écoute. Et donc voilà, donc c'est Amakoué de Souza. C'est un peu la personne aussi que j'aurais pu être si j'étais né au Togo, peut-être, plutôt qu'à Caen, en Normandie.
Alors, le personnage est un homme seul qui prend une décision, descendre de chez lui, renoncer donc à ses fameuses sardines et se rendre au kebab. On va donc passer des sardines à la boîte de nuggets, donc du passé au présent, de la tradition à l'innovation, d'une certaine façon de l'Afrique à l'Occident.
Oui. Alors après, c'est vrai que, ouais, à force, je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais je dirais que c'est plus une manière de vivre l'éducation de nos parents. Donc on passe de la personne qui ploie vraiment sous l'éducation et qui la respecte qui est soumise à une personne qui se dit c'est bon, je mange des nuggets si je veux, j'ai envie de manger du
muffin. Je suis libre.
Je suis libre.
Enfin.
Voilà. Enfin, elle dit enfin, mais est-ce qu'elle l'est vraiment là?
C'est toute la question. Ouais. Évidemment, il faut assister à l'ensemble du spectacle pour y apporter une réponse précise, quoique. Hein. Mmh. Et donc, en tout cas, au kebab, cet homme seul va faire une rencontre. Tout commence par un échange de regards avec une femme. Et comme on l'a dit, hein, votre spectacle, c'est un seul en scène. Et c'est vous qui incarnez donc la femme. Alors, vous changez quelques éléments de costume, transformation physique, transformation du langage aussi. Hein. Il n'y a plus d'accent. Mmh. La rythmique, le phrasé change complètement d'un coup, Jean-Christophe. Ouais. Est-ce que c'est le costume qui vous permet de changer de personnage? Est-ce que c'est cette transition-là par le costume?
Non, je dirais plus que c'est le fait de c'est le texte. C'est le texte qui change vraiment qui fait que le personnage change. Et c'est dans la manière d'écrire. C'est vrai que le premier personnage, il n'y a pas d'espace. C'est vraiment rempli. Il n'y a presque pas de virgule, de points et tout ça. Et alors qu'elle, elle revient toujours à la ligne. Et le fait que ce soit un peu plus scandé, que ce soit plus une scansion, du coup, ça a amené quelque chose d'autre. Je pense que c'est par le texte que le personnage est apparu.
C'est un texte plus aéré, plus aérien.
Ouais.
Et plus détaché.
Ouais, voilà.
Et en même temps plus direct. Oui, ouais, c'est assez paradoxal, effectivement, parce que elle a vécu aussi cette femme et elle partage son expérience avec les spectateurs. Mmh. Évidemment, c'est aussi une âme en souffrance.
Oui. Elle est en souffrance, mais elle est très en colère. Elle est pas du tout soumise. C'est vraiment la colère qui ressort de ça. Quoi. Elle a plus envie de subir. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. J'y demanderai ce soir. Mais oui, je pense que c'est ça. Ouais.
À trop entendre parler d'aube, dans mon squelette et dans mon sang, à trop vouloir fuir le mauve, dans des orgasmes incessants, à trop vouloir avoir raison contre le temps et ses disciples, à trop dire fuck aux saisons, à trop dire fuck aux éclipses.
Et vous chantez donc aussi, Jean-Christophe Folli, sur le plateau de l'espace Présence Pasteur, deux âmes en souffrance qui se rencontrent dans ce texte, qui se rencontrent et qui vont faire un bout de chemin ensemble. Ils vont progresser, en d'autres termes, ces deux personnages, ils vont avancer, pour reprendre vos mots, Jean-Christophe Folli, ils vont s'en aller à la Tupac, à l'Albertine, à la Rimbaud. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces trois références-là?
Je sais pas, c'est trois personnes qui sont parties et voilà, qu'on coupait avec la poésie peut-être un peu mondaine pour aller vers vers une poésie plus, je sais pas, plus humaine, voilà. Et on ne sait pas vraiment ce que ces personnes sont devenues. Il y a toute cette légende autour de Tupac qui serait pas mort et tout ça.
Oui.
Et puis Rimbaud aussi qui est parti, qui était en Abyssinie et tout ça. Et Albertine, bah c'est Albertine Sarrazin, voilà, qui est
l'héroïne de Proust.
C'est la personne qui avait écrit l'Astragale. Là, c'est une écrivaine qui a passé pas mal de temps en prison. Voilà, qui était un petit peu voleuse et tout ça, mais qui a écrit beaucoup de... Une personne qui a été adoptée en Algérie, voilà, par des Français, puis qui a eu du mal à s'intégrer, tout ça, qui est morte à 30 ans, mais qui a écrit des romans sublimes, et, dont, je sais pas, il y a l'Astragale, La Traversière, et voilà, c'est une femme qui est morte très jeune, bah, comme Tupac, comme Rimbaud, mais c'est comme si ces personnes n'étaient pas vraiment mortes, et qu'elles étaient parties, qu'elles étaient ailleurs, qu'elles avaient fait la révolution, donc voilà, ouais.
Au moins, le kebab, t'attends 2 minutes, t'attends 5 minutes, mais tu sais que ça va arriver, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là... C'est horrible, mais... La seule chose que je sais, la seule chose dont je suis absolument sûr, là, maintenant, tout de suite dans ma vie, c'est que... Dans 2 minutes, dans 5 minutes, tu vois, je récupère mon kefta harissa, double fromage, normal. Non, le kebab, c'est bien, tu vois, parce que au bout d'un moment, quand t'attends trop longtemps, t'as plus envie, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, t'as plus envie. Puis moi, j'ai trop attendu, quoi, j'ai plus le temps. Tu vois.
Alors là encore, on le constate à l'oreille très facilement, Jean-Christophe Folli, ce n'est pas la même façon de parler. Lui, c'est le troisième personnage de la pièce, celui qui apparaît à la fin et qui donne au spectateur, j'ose pas dire les clés, mais une partie du trousseau des clés des deux autres personnages. Mmh. On peut dire ça comme ça.
Oui. Je sais pas si c'est. Oui, je pense que c'est un prolongement des deux autres. Ouais. Je sais pas. Il a. Ouais. Peut-être un mélange ou un prolongement plutôt. Ouais.
Alors, lui aussi, il a un look très très étudié, un veste de tweed, écharpe, chapeau posé en arrière de la tête, petites lunettes rondes à verre fumé, et surtout, il porte une valise. Alors, la valise, elle est là depuis le début de la pièce. Hein. Elle est sur scène, à vos côtés. C'est une valise qui a vécu, elle aussi. Comme les personnages, une valise un peu élimée et une valise qui prend donc toute sa place avec ce troisième personnage qui la brandit à bout de bras, qui l'exhibe aussi et qui en parle comme une sorte de fardeau, mais de fardeau dont il est lassé, dont il a envie finalement de se débarrasser. La valise, c'est une forme de symbole du passé et de symbole de l'assignation aussi, Jean-Christophe Folli.
Oui, je pense qu'il y a de ça. Enfin, c'est vrai qu'elle symbolise beaucoup de choses, quoi. Mais c'est tout. Bah, oui, je pense que ça symbolise peut-être la diaspora, j'ai envie de dire. Ouais, ce qu'on est arrivé avec une culture qui nous correspond pas, qui nous a jamais vraiment correspondu, mais dont on peut pas se défaire. Et voilà, c'est un peu symbolisé par cette valise. Et au bout d'un moment, il faut quitter. Comme on dit au Togo.
La diaspora, c'est une forme de dictature de l'entre-deux. On peut dire ça comme ça.
Ah, c'est intéressant comme formule, ça. Ouais, merci. Ouais, je vous la pique. Quoi.
C'est-à-dire, c'est inconfortable par définition.
Ça, oui. Je pense qu'à un moment, au départ, ça l'est. L'idée l'est, mais je pense que c'est quelque chose à dépasser pour vraiment s'intégrer. Mais alors, s'intégrer où?
Oui, la question, c'est la question du choix.
Ouais, la question du choix. Mais je pense qu'il n'y a pas de, comme il disait là avant, c'est pas binaire et tout ça. Mais c'est, mais je pense qu'il y a de ça. Ouais, la diaspora, c'est une culture en soi, c'est un pays en soi. Je pense que, ouais, c'est un pays à. Ouais, faudrait avoir des papiers pour la diaspora.
Alors, on a reçu cette saison dans Vous m'en direz des nouvelles beaucoup d'écrivains qui racontaient justement leurs propres histoires de diaspora, qu'elles soient purement romanesques ou totalement autobiographiques, et ils nous expliquaient, en fait, que leurs personnages ou eux-mêmes ne se sentaient jamais chez eux nulle part, en quelque sorte, ni dans le pays d'origine de leurs parents et de leurs ancêtres, ni dans le pays d'accueil de leur famille. C'est aussi ce que vous avez ressenti?
Non, parce que le temps passe, quoi. Je vieillis, donc je commence à, je sais pas, il se passe des choses en moi, quoi. Cette année-là, il se passait beaucoup de choses, et là, je commence à me sentir chez moi, dans plusieurs endroits. C'est assez troublant, quoi. Mais au Togo, le pays de mes parents, en Normandie, là où je suis né, voilà, il y a Saint-Denis, je me sens bien. Saint-Laurent-du-Maroni, pareil. Enfin, Saint-Denis dans le 93.
Hein. Oui, Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Oui.
En Guyane. Saint-Laurent, ça me manque beaucoup, quoi. Mais il y a vraiment des endroits où je me sens chez moi de plus en plus, et puis j'arrête de chercher l'approbation, ou voilà, ou le, voilà, qu'on me dise ouais, t'es chez toi. En fait, c'est, je pense que c'est moi qui décide, ou c'est mon corps qui décide, je pense.
Ça veut dire que vous êtes libéré, que ça veut dire que vous êtes un homme apaisé.
Au niveau de cette question de diaspora, oui, oui, en ce moment, ouais, ça se passe bien. Après, on se revoit dans 6 mois. Je vais dire autre chose. Je vais dire, ouais, j'en ai marre, je sais pas. Mais en ce moment, ouais, ça va. Ouais.
Alors, il y a donc 3 personnages dans ce spectacle, 3 figures, 3 corps, 3 langages, 3 phrases, 3 types d'adresse au public, pour résumer. Et puis, il y a aussi les 3 mots du titre, salade, tomate, oignon. Pourquoi est-ce que vous avez construit ce spectacle autour d'une sorte de règle de 3? De 3, le chiffre, évidemment.
Ouais, ouais. Bah ouais, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un truc de trinité. Alors je pense que ça, il doit y avoir un peu des résidus de l'éducation catholique, je sais pas. Mais non, ouais, je sais pas. Mais en même temps, je me disais par rapport au programme, là, d'ailleurs, on en parle. C'est vrai qu'en France, il y a aussi voilà, liberté, égalité, fraternité, black, blanc, beurre, voilà, des trucs comme ça qui sont
bleu,
pas
blanc, rouge aussi.
Bleu, blanc, rouge, ouais. Bleu, blanc, rouge, au passage, ouais. Et qui sont pas, enfin, c'est un peu mytho, quoi. Moi, j'y crois pas trop. En revanche, salade, tomate, oignon, c'est vrai que quand on le dit, il y a toujours, ça éveille quelque chose dans l'œil de l'autre, un petit truc, voilà. Tout le monde est passé au kebab, voilà, à 2h du matin parce qu'il avait la dalle et parce qu'il a, pour éponger, voilà, une soirée un peu trop, voilà. Ça, c'est quelque chose
qui existe. La République, c'est le kebab?
Ben, j'ai l'impression, mais ça on veut pas trop l'avouer, mais ouais, je pense, ouais, j'ai l'impression que ouais.
Et avec la salade, les tomates et les oignons, vous prenez quoi comme sauce?
Justement là, à la fin d'ailleurs, voilà. dans l'extrait, il dit pas samouraï, mais moi je prends ça, mais en fait c'est plus barbecue samouraï. Moi j'aime bien sucré, un peu piquant et tout ça, j'aime bien le
sucré un peu piquant. Ça correspond d'ailleurs à peu près à l'ambiance de votre spectacle, Christophe Folie.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup d'être venu nous voir. Salade, tomate, oignon, c'est donc tous les jours, sauf le mardi à 20h15, à Présence Pasteur, ici au Festival Off d'Avignon. C'est jusqu'au 20 juillet. Et comme je le disais tout à l'heure, le texte de la pièce est paru aux éditions Lire des Marges. Merci.
Merci beaucoup.
Kambwa kokamwa ngai na monie Zela na ebisana bato bayokela ngai Soki nyongo ngai na kofuta Ai nzambe osala nde bato Kambwa kokamwa ngai na monie Zela na ebisana bato bayokela ngai Soki nyongo ngai na kofuta Ai nzambe osala nde bato Yoko senga ngai nyongo na miso ya bato Ponini toyokanaki na futaka na malembe Awa osani boye nako futate Kende na bazuzi yelangai convocation Ndolo na kokoto pona nyongo na yo Sala makasi okoma elisio
Nyongo, Nayo, Nakofuta, Franco Kwami featuring Vicky sur RFI. Direction à présent, le Théâtre des Lilas, un petit théâtre charmant dans une haute maison de pierre face à une place arborée typique d'Avignon. Durant tout le festival Off, ce théâtre laisse la parole aux femmes. Une scène engagée et féministe avec comme credo la diversité qui accueille depuis hier la conférence gesticulée d'essai mais sans. Faut que ça sorte. Baptiste Antoine était là pour VMDN.
Faut que ça sorte.
Faut que ça sorte.
Faut que ça sorte.
Faut que ça sorte.
Une conférence gesticulée n'est pas exactement un spectacle. Ce n'est pas non plus une conférence traditionnelle. C'est une prise de parole publique qui porte une dimension politique, personnelle et collective. C'est cette démarche qu'a entamée Essémé Sang dans un acte de résilience nécessaire pour elle. Faut que ça sorte, c'est son récit, celui d'une femme noire, togolaise, allemande et française, née à Lomé, issue d'un milieu populaire. Aujourd'hui, maman solo est foudroyée en pleine réunion en 2018 par un violent burn-out face à des collègues incrédules.
Au sol, c'est le bal des hyènes et des vautours. Il faut trouver sa place, tirer le beau du lait, se convaincre que là où il y a amour et volonté, l'espoir prend racine.
Fardeau.
Pour sa première représentation, Essé s'avance, émue. Elle déambule sur une chanson du togolais Elom Vince. La musique s'interrompt. Vêtue d'une longue robe blanche, elle commence à danser dans le silence. Son décor est simple. Un pupitre, un écran où défilent les citations et les photos de sa vie. Et puis sur la scène, il y a l'arbre des oppressions. Il énumère toutes les violences systémiques de notre société occidentale et ses conséquences sur les individus. Cette conférence est l'outil des sémessants pour le déraciner.
Je parle des choses que je n'avais jamais dites, en fait. Et je me disais, mais tous les gens qui n'ont pas accès à ces outils, à la fois pour se soigner, à la fois pour partager un récit, comment ils font? Ils meurent.
Essé, prénom qui veut dire « Dieu m'a écouté » en Ewe, l'une des langues du Togo, s'adresse à son public. En toute bienveillance, elle invite chacun et chacune, issus des minorités, militantes et oubliées, à l'écouter.
Des gens qui viennent pendant une heure et demie et parfois plus, à écouter mon récit, je trouve que c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Écouter vraiment quelqu'un, c'est juste lui donner l'espace pour se poser, pour poser. Et je pense qu'on le fait très peu, en fait, dans nos sociétés. On écoute très peu. On va parler de santé mentale. Parce que garder une santé mentale dans notre société, c'est un challenge. Et je vais être honnête avec vous, j'apprends encore à préserver et soigner la vie.
Cette conférence gesticulée est donc à l'image de sa santé mentale, en construction, vulnérable. Entre récits personnels et collectifs, le spectacle est jalonné par son ressenti face aux violences sexuelles, sexistes, racistes, historiques ou issues des discriminations de classe. Et ses messans les a toutes éprouvées au cours de sa vie. Elles ont toutes participé à l'expression de son burn-out.
Je ne pense pas détenir toutes les réponses. Ce que je propose, c'est d'explorer mon expérience et de prendre en compte la complexité de qui je suis et ma place dans la société. Pour moi, le burn-out, c'est l'iceberg qui dissimule une multitude de pressions sociales intimement liées aux rapports sociaux de domination.
En se livrant devant son public, Essémé Sang crée un espace de guérison pour elle-même et pour l'auditoire. L'écoute est mutuelle, tolérante, mais engagée, déterminée. Elle n'est pourtant pas comédienne, mais elle voit cette conférence comme un cadeau qu'elle s'est offert et qu'elle partage. Par le théâtre, elle renforce son acte de résilience.
Porter ce récit aussi vulnérable, difficile qu'il puisse être, c'est une manière de dire aux gens, mais en vrai, c'est possible. Et on a le droit d'être vulnérable.
Au fur et à mesure du spectacle, elle tisse un lien puissant entre l'intime et le politique. Elle convoque sur scène les esprits qui l'ont accompagnée dans sa lutte quotidienne contre la souffrance, entre musique et poésie. Comme la poétesse afro-américaine Maya Angelou avec ce vers, « Il n'existe pas de plus grande agonie que de porter en soi une histoire jamais racontée. »
Tu connais pas la souffrance et tu prétends être sage, Kanakassi, le silence est un cri. Tu connais pas la souffrance et tu prétends être sage, Kanakassi, Kanakassi, Kanakassi. Tu connais pas la souffrance et tu prétends être sage, Kanakassi, le silence est un cri. Ils sont venus marcher dans mes plaies pour se réchauffer les pieds, m'ont demandé comment je me sentais pour mieux me piétiner. Je suis retourné dans ma cage, l'oiseau n'y chantait plus. Il était couché là, raide comme un caillou, triste comme une église. Immobile, telle une dictature. Qu'est-ce qu'il fait ce clou dans mon front? Qui lui a pris ses cheveux de rein qui font gicler mon sang? J'ai invité des frères à prendre les
reportage de Baptiste Antoine pour VMDN. Dans une poignée de secondes, retour à Paris, c'est l'heure du journal en français facile. On se retrouve demain, bien sûr, pour parler danse avec la chorégraphe espagnole Larry Bott, qui redonne vie à Jeanne la Folle, la reine Juana de Castille, c'est au cloître des Célestins, et avec le chorégraphe et danseur Abdoun Gom, qui rend hommage à sa maman et au Sénégal avec son spectacle Yai. C'est le titre donc du spectacle à voir au théâtre Golovin. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.